Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Et nous allons commencer par vous parler ce matin de la réaction de la Banque Centrale Européenne à propos de la crise qui a ébranlé le secteur bancaire sur les marchés. Elle a continué à augmenter ses taux d'intérêt directeurs. On vous explique pourquoi. Près d'une cinquantaine d'économistes réputés signent une carte blanche pour encourager le gouvernement à se méfier. Le dérapage budgétaire ne fait que se renforcer et la situation pourrait vite dégénérer. Améliorer votre connectivité à la maison avec le bureau, c'est votre rêve ultime de télétravailleur. Eh bien, une nouvelle start-up pourra vous y aider. Et un petit morceau de YouTube en fin de podcast, ça vous dit ? Alors restez branchés. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
Rien à faire des banques suisses, qu'elles se débrouillent, j'ai d'autres chats à fouetter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une interprétation un peu rapide du message envoyé par Christine Lagarde, la présidente de la BCE. La Banque Centrale Européenne tenait une réunion de politique monétaire hier et elle a maintenu sa ligne forte en relevant ses taux de 50 points de base. Le taux de la facilité de dépôt atteint ainsi les 3%.
Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today...
Voilà, l'inflation est encore trop forte pour s'arrêter. La Banque Centrale Européenne maintiendra donc sa politique ferme tant qu'elle ne parviendra pas à son objectif de 2% à moyen terme. La BCE préfère donc, ça c'est clair, s'occuper plutôt de l'augmentation des prix que de l'inquiétude liée aux déboires de Crédit Suisse en particulier. Philippe Gallois, vous êtes journaliste au service Investir de l'Écho. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, veut faire passer trois messages. Le premier, c'est que la Banque Centrale est toujours déterminée à combattre l'inflation. Elle rappelle que c'est sa première mission et elle estime qu'elle a fait le pas qu'il fallait, qui était nécessaire encore cette fois-ci en augmentant ses taux d'un demi-point. Deuxièmement, pour l'avenir, elle a souligné à plusieurs reprises que dans les prochains mois, ça dépendrait vraiment des données économiques. Et alors troisièmement, elle a aussi insisté pour dire que les banques de la zone euro étaient solides, qu'on n'était pas dans la situation de 2008 de la crise financière, mais que le cas échéant, si malgré tout une crise de liquidité hypothétique survenait, la Banque Centrale Européenne était prête, elle avait les outils nécessaires pour intervenir s'il le fallait.
Merci Philippe Gallois. Et pour tout comprendre de cette crise, remettre dans le contexte, cela va-t-il s'aggraver ? Je vous invite à écouter immédiatement après ce brief, le brief spécial que nous consacrons au sujet. Il se trouve au même endroit que celui où vous écoutez en ce moment ce podcast. Il y avait de quoi en avaler son café de travers hier matin en regardant le cours de l'action Telenet qui a bondi de 10% en quelques minutes. L'autorité des marchés financiers, la FSMA, a immédiatement fait suspendre la cote en attendant de plus amples informations. Mais rien n'est venu dans la journée, ni de la part de l'opérateur télécom, qui s'est fendu d'un très court communiqué pour dire qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails, ni de la part de son actionnaire majoritaire américain, Liberty Global. Les analystes en étaient donc à parier sur la possibilité d'une offre publique d'achat lancée par Liberty Global sur les quelques 37,8% du capital qu'il ne détient pas encore. Ces dernières années, l'actionnaire américain s'est défait de beaucoup de ses participations dans des opérateurs télécom, considérés comme non stratégiques, pour se concentrer sur les 5 qui sont les mieux positionnés sur leur marché, dont Telenet en Belgique. Liberty Global avait déjà tenté une OPA sur Telenet il y a environ 10 ans, à 35 euros par action, mais le prix n'avait pas séduit les actionnaires. Le titre navigue aujourd'hui autour des 15 euros. Ce n'est pas faute de l'avoir asséné, dit et redit, mais la dette publique belge atteint de nouveau des sommets intenables et ce n'est pas prêt de s'améliorer. C'est le message d'une cinquantaine d'économistes belges renommés qui adressent aujourd'hui un message au gouvernement qui entame son marathon budgétaire de printemps. La carte blanche est à retrouver sur notre site internet et le journal L'Écho. Ce n'est évidemment pas la première fois que des économistes tirent la sonnette d'alarme. Il y a aussi le FMI, la BNB, la Commission européenne et l'OCDE qui s'inquiètent de la dérive de la Belgique. Mais a priori, ces avertissements n'ont pas servi à grand-chose. et la conjoncture actuelle n'a fait qu'aggraver la situation. C'est l'analyse d'Étienne de Calataille, l'un des signataires du document.
Le changement de contexte doit en fait amener ceux qui relativisaient les mises en garde antérieures à beaucoup beaucoup de modestie, pour ne pas dire de contrition. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est vrai que quand les taux d'intérêt sont nuls, vous pouvez vous permettre de ne pas vous soucier de vos charges d'intérêt. Mais quand les taux d'intérêt étaient nuls, il n'était pas très difficile d'imaginer qu'ils pourraient un jour ne plus être nuls, qu'ils pourraient remonter. Mais à l'époque, ceux qui appelaient à une certaine prudence, on les regardait de haut en disant « vous êtes des dogmatiques, pourquoi ne pas profiter de la fête ?» Aujourd'hui, on voit que les taux d'intérêt ont remonté, et donc avec la hausse des taux d'intérêt telle qu'elle est déjà observée, nous savons que dans les années qui viennent, le paiement des intérêts ne fera que monter. Vous mettez ça sur une dette publique qui elle-même augmente et vous avez un double effet négatif, ça veut dire que l'argent que vous consacrez à payer des intérêts, vous ne l'avez plus pour faire d'autres choses. Que ce soit pour diminuer des impôts ou faire des dépenses utiles, vous ne l'avez plus, vous devez le consacrer à ce qui est l'usage le plus idiot, payer des charges d'intérêt.
Ce qui est vraiment dommage. Mais bonne nouvelle pour les finances publiques, le comité de monitoring qui analyse la situation avant chaque discussion budgétaire annonce une amélioration de plus de 6 milliards d'euros par rapport au budget initial de 2023 pour la Belgique. Le déficit global de notre pays dépasse les 27 milliards d'euros, alors qu'il est estimé à plus de 33 milliards en début d'année. Bon, avouons-le, pas encore de quoi se réjouir complètement. Et puis la Chambre a validé hier, en séance plénière, la pérennisation de la réduction de la TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité à partir du 1er avril. Cette décision est liée à la réforme des accises. La TVA sur le gaz et l'électricité a baissé il y a presque un an. Au départ, c'était une mesure temporaire pour réduire les factures énergétiques. Elle deviendra donc permanente. Aïe ! Vous commencez un travail à la maison et c'est le drame. Vous n'arrivez plus à vous connecter à votre bureau, vous perdez du temps et c'est agaçant. Combien de fois aussi cela vous est-il arrivé en réunion, quand l'image et le son se font la belle ? C'est pour mettre fin aux problèmes de connexion en télétravail qu'une poignée d'ingénieurs basés à Louvain-la-Neuve a mis au point une solution pour éviter les coupures de réseau. L'idée s'appuie sur un boîtier à connecter à la connexion classique, muni d'une carte SIM qui peut elle-même se connecter à n'importe quel réseau mobile dès qu'une rupture survient. Cette technologie est particulièrement utile pour tous ceux qui travaillent dans une fonction où une connectivité constante et sécurisée est indispensable. On pense par exemple au support IT et aux services de clientèle, comme le rappelle Denis Périquet, CEO de cette nouvelle start-up.
Notre solution, qui s'appelle OTI, elle va vraiment amener ces trois dimensions. Donc, elle va fiabiliser la connexion. Donc, ça veut dire qu'on va être en mesure de monitorer en temps réel la connexion. Et si on voit que cette connexion, elle n'est plus là, elle est défaillante, on va la compenser immédiatement avec le réseau mobile. On va être en mesure pour ceux qui sont peut-être dans des zones un peu plus reculées où la vitesse elle est plus basse parce qu'ils sont pas connectés à la fibre ou ça mettra encore un certain temps avant d'être connecté à la fibre. On va combiner le réseau fixe et le réseau 4G ou 5G pour offrir plus de vitesse. Et puis on va aussi isoler le trafic professionnel des autres activités de la maison de manière à renforcer la sécurité.
Pour Denis Périquet, le marché européen est particulièrement attractif car on estime aujourd'hui à près de 50 millions le nombre de personnes sur le continent qui font régulièrement du télétravail. Le but de la start-up est d'en convaincre 1 million d'ici 5 à 6 ans. Actuellement, la solution est en phase test dans quelques entreprises. Alors non, les médias traditionnels ne sont pas encore morts. On dit que la télé n'est plus autant regardée qu'avant par les jeunes générations, et pourtant, elle reste le premier canal officiel des réclames. Malgré une baisse régulière de ses audiences, elle captait encore plus de 35% des dépenses pub l'année dernière, plus que le budget global consacré au digital. Au final, les médias classiques comme la télé, la radio, la presse ou l'affichage rassemblent encore près de 65% des dépenses pub, 35% pour le digital, les réseaux sociaux en tête. Mais il faut noter quand même que le budget pub pour les réseaux sociaux dépasse maintenant le poids de l'affichage d'après les chiffres de l'Union belge des annonceurs. Le marché de la pub en Belgique, l'année dernière, représentait un peu plus d'un milliard d'euros, soit un chiffre similaire à celui de 2021. Les salariés des magasins intégrés de Deleuze semblent bien décidés à faire de la résistance. Cela fait une dizaine de jours que l'enseigne a annoncé sa volonté de mettre sous franchise tous ses sites et la grève se poursuit dans plus de 80 supermarchés sur 128. Et ce mouvement, ça commence à coûter très cher aux distributeurs, entre 50 et 100 millions d'euros selon des estimations de spécialistes du secteur. Mais si le projet de mise sous franchise ne plaît pas du tout aux salariés en grève, il suscite en revanche beaucoup d'intérêt en externe. Près de 200 candidats preneurs potentiels se sont déjà manifestés, alors que la procédure n'est pas encore lancée. C'est le chanteur Bono qui nous le dit, c'est un beau jour pour U2. Nous sommes le vendredi 17 mars, ça vous le savez, mais c'est aussi le jour de la Saint-Patrick, ô combien symbolique pour les Irlandais et le groupe qui s'est formé à Dublin. U2 sort un nouvel album, Songs of Surrender, aujourd'hui, et vous y retrouverez 40 chansons sur 4 CD ou disques vinyles, réimaginées et réenregistrées. Mais c'est aussi aujourd'hui le jour choisi par Disney+, pour présenter un documentaire sur la vieille amitié qui unit le chanteur Bono et le musicien de Edge. On peut dire que c'est un retour aux affaires fracassants. U2 va débarquer à Las Vegas en septembre pour une série de concerts en résidence comme Elton John ou Céline Dion, mais pas n'importe où. Marc Lambrex, vous êtes intéressé à ce dossier. U2 va inaugurer une salle toute neuve.
C'est une sphère en fait, qui fait 110 mètres de haut, qui peut accueillir 17 000 personnes avec des écrans LED dernière génération, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ça promet d'être assez spectaculaire. Maintenant, le coût de cette salle atteint désormais presque 2 milliards de dollars. Et en fait, la facture n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Et on ne sait pas quel sera le cachet de U2 pour cette série de concerts. Le secret est bien gardé. Et en fait, le groupe a toujours eu, et Bono en particulier, une relation assez ambivalente avec l'argent. U2 et Bono, c'est un peu un mélange de bienfaiteurs de l'humanité. Il y a tous au combat pour l'Afrique, contre la pauvreté, pour le commerce équitable. Et puis, il y a aussi l'aspect businessman, avec un mélange de business et de philanthropie.
Voilà, vous savez quoi écouter ce week-end. Très belle journée à tous, merci de nous avoir suivis. Et je vous retrouve lundi avec Bernard Kepen, chef économiste chez CBC. Et nous allons parler ensemble de la crise bancaire que nous avons traversée cette semaine. À très vite.